des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Des analyses sur le monde, sans frontières. Savoir et comprendre l'international, Guillaume Lavoie.
Guillaume, parlons de Airbnb, puis je sais que c'est un dossier qui t'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Est-ce que l'annonce qui vient de tomber il y a encore quelques minutes à propos de laquelle Airbnb va retirer de ses plateformes tous les logements, finalement, les locations à court terme, n'ayant pas de numéro, n'étant pas enregistrés auprès des autorités publiques, est-ce que ça va mettre le couvert sur la marmite?
Ça va être une très bonne chose, Yasmine. Puis là, juste pour les gens qui nous écoutent, pourquoi est-ce que moi, j'ai dans ma vie antérieure, voici l'histoire courte, là, dans ma vie antérieure, j'ai dirigé les deux groupes de travail pour le gouvernement du Québec sur ces questions-là. C'est là-dessus que j'enseigne à l'université. Et en gros, dans le rapport, le dernier rapport pour le gouvernement du Québec que j'ai dirigé, qui a été déposé d'ailleurs à la ministre actuelle, Mme Proulx, il y avait recommandation numéro 2. Le but, c'était, il faut que peu importe la mesure que l'on mette en œuvre, il faut être capable de l'appliquer. Sinon, c'est l'adolescence des politiques publiques, c'est du discours pour avoir l'air gentil, c'est du feel-good policy. Alors, ça prend quelque chose qu'on est capable de contrôler puis qui marche. Et il y avait cette idée de ça n'a pas de bon sens d'envoyer les inspecteurs chez tout un chacun, ça devient impossible à contrôler. Donc, l'idée, c'est que ce soit d'ailleurs sur Airbnb ou n'importe quelle des 28 autres plateformes qui existent, qu'il y ait à côté de chaque annonce la présence du numéro, donc de la preuve d'enregistrement. Et le fait qu'il n'y ait pas cette preuve-là, c'est en soi une infraction. Donc là, ça rend le contrôle incroyablement simple. Alors là, ce petit bout-là avait pas été mis dans la dernière mouture de la réglementation. La ministre a annoncé qu'elle allait le faire très rapidement. Alors, c'est une bonne nouvelle au général. Et là, la grande question, c'est il va y avoir combien de confusion dans le mélange? Parce que plus c'est mêlant, moins les gens se conforment, là, même si tout le monde est de bonne foi. Là-dessus, il y a une grosse part de la culpabilité qui revient dans le monde municipal, particulièrement à Montréal, où on s'entête à faire comme si la loi de Québec avait pas été votée.
Non, c'est ça.
Et la loi de Québec, elle vise essentiellement à protéger le parc d'habitation. Puis pour être capable de faire ça, la thèse qui avait été déposée dans le rapport que j'ai dirigé, c'est ce que j'appelle, moi, le test de la brosse à dents. C'est-à-dire, est-ce que c'est là où ta brosse à dents est d'habitude? Si c'est oui, tu t'enregistres, tu le fais, c'est généralement accepté. Pourquoi? Parce que si c'est là où tu habites d'habitude, ça n'a pas de rapport s'il y a un enjeu sur la crise du logement. Il n'y a personne qui va se dire, je suis malheureusement SDF, hein, je suis un sans-abri parce que j'ai loué mon chez-moi sur Airbnb. Ça n'arrivera pas, ça. L'enjeu de la prédation potentielle sur le parc d'habitation, c'est lorsque c'est pas là où tu as brossé dents. Et d'habitude, c'est ce qu'on appelle les résidences secondaires, qu'elles soient en ville, en campagne ou ailleurs. Et en gros, si sur la principale, c'est oui, sur la secondaire, c'est oui, si et seulement si l'autorité municipale est d'accord. Et c'est là le bout où il faut que les villes commencent à arrêter de faire semblant de pas comprendre, de pas savoir la distinction entre les deux. Parce que si tu peux faire du zoning, du zonage particulier sur la secondaire, tu peux pas le faire sur la principale. Alors, plus les villes vont mettre du mélange là-dedans, ce qui m'inquiète, c'est que à force que ça devienne trop compliqué, on pourrait pousser la pratique encore plus en souterrain ou en sous-marin. Et ça, ben, tout le monde y perd, là.
En fait, c'est toute la société qui va perdre, et aussi des revenus. Le gouvernement va perdre des revenus parce que s'il commence à y avoir une espèce d'économie parallèle de location à court terme qui ne soit ni réglementée, ni suivie, ni inspectée, on n'est pas plus avancé.
Non, mais là-dessus, sur l'inspection, là, je pense qu'il y a une hypocrisie assez extraordinaire, particulièrement du côté montréalais, parce que, par exemple, c'est comme si vous me disiez, ben il y a des gens qui se sont empoisonnés parce que l'eau était pas potable dans un hôtel, dans un Airbnb, dans une auberge de jeunesse. C'est grave, mais ça n'a rien à voir avec l'activité touristique.
Non.
L'obligation de l'État municipal, c'est d'avoir de l'eau potable partout. Quand le feu prend, puis qu'il n'y a pas de sortie d'urgence, ou qu'il n'y a pas de détecteur de fumée, ou il n'y a pas de gicleur, le feu se contre-Saint-Cyboirise de savoir est-ce que c'est des touristes ou des Montréalais ordinaires.
Oui.
Si je loue, si on veut protéger les locataires, même les locataires ordinaires, là, qui louent pour 12 mois avec un bail et autres, comment ça se fait que l'autorité municipale est cachée en dessous de son lit quand c'est le temps d'inspecter les bâtiments? Parce que ce soit pour du tourisme ou pour du logement normal, t'es obligé de respecter certaines règles de construction. Et là-dessus, peut-être que Airbnb est devenu un épouvantail fichtrement utile pour cacher son manque de, sa responsabilité dans la non-inspection de bâtiments et surtout dans le Vieux-Montréal où on le sait qu'il y a probablement pas mal de choses qui sont pas au code.
Ça, c'est certain. C'est assez particulier, moi, je trouve, le traitement de toute cette histoire depuis qu'il y a eu ce brasier qui a coûté la vie à 6-7 personnes. On se lance la balle, Airbnb, facile pointer du doigt Airbnb plutôt que de prendre ses responsabilités et se dire qu'est-ce que comme société, comme autorité gouvernementale, que l'on soit municipal ou provincial, qu'est-ce qu'on peut faire de manière à s'assurer que nos bâtiments, peu importe qui y habite pour une journée ou pour un an, ça soit sécuritaire, puis cette question-là que je ne vois pas sur toutes les lèvres alors que c'est celle qui devrait nous obséder. Parlons d'une autre obsession qu'on a eue dans les dernières semaines, dans les derniers mois, le chemin Roxham. Guillaume, fais-tu partie de ceux qui l'ont vu venir, contrairement à moi? Moi, j'ai fait mon mea culpa, puis je me suis excusée de pas avoir donné la chance au coureur. J'y croyais pas. Eh ben, je m'incline.
Ouais, moi, je suis un peu surpris. Il faudra voir qu'est-ce que ça veut dire dans le monde du réel à l'usage, là. Mais c'est très clair qu'à court terme, c'est une victoire pour le premier ministre Trudeau. C'est certainement un peu de chaleur pour M. Biden. Puis comment est-ce que, parce qu'il faudra voir aussi quelle sera la contrepartie, pas juste dans la gestion de la frontière, mais qu'est-ce, nous, on a demandé quelque chose à M. Biden et nous l'a donné. Qu'est-ce que M. Biden va demander au Canada où là, faudra peut-être répondre présent? Parce que c'est ça, une vraie relation, c'est un peu donnant-donnant. Mais en gros, pour que les gens comprennent bien, si tu arrives à un poste frontière ordinaire et que tu dis, ben finalement, je te fais une demande de réfugié et autres, et de là où tu arrives, si c'est un pays sûr, comme les États-Unis, ben on te retourne dans le pays sûr. Si tu arrives entre deux postes frontières, comme le chemin Roxham, ben là, il y avait une espèce de trou dans la réglementation. Là, on dit toute la frontière canado-américaine, c'est quand même pas rien, c'est 8900 kilomètres.
C'est beaucoup.
C'est la plus grande frontière binationale au monde. Et là, on va dire, ben tout ça, là, on considère qu'on te retourne de ton côté. Ce qui fait craindre à certains que si on empêche de passer au chemin Roxham, est-ce que par désespoir de cause, d'autres immigrants essaieront de passer dans des lieux encore plus périlleux, dangereux, au risque de leur santé? Parce qu'il y a personne qui traverse la frontière à pied parce que ça va bien dans sa vie, là. Parce qu'il s'en va étudier à McGill ou à l'Université de Montréal ou que ça y tente de lancer une entreprise d'investisseurs.
Tu cours pas ces risques-là quand tu juges pas.
Difficile.
C'est ça. Tu cours pas ces risques-là sur littéralement ton intégrité physique quand tu ne considères pas que le jeu en vaut la chandelle et qu'au bout du compte, tu seras plus gagnant que perdant, là.
Et ça, et là, on va voir, parce que là, le Canada, puis c'est une approche que les États-Unis avaient demandé au Mexique aussi, ce qui montre à quel point c'est véritablement, on en a parlé ensemble, un enjeu continental. Là, le Canada va prendre 15 000 personnes de plus parmi ces réfugiés-là qu'on va accepter, je dirais, légalement. Mais, et c'est là où l'argument, à un moment donné, il faut assumer la chose. À partir du moment où tu acceptes des gens, choisir, c'est aussi renoncer. Ça veut dire qu'il y en a qu'on n'acceptera pas. Si on en prend 15 000, ça voudra dire qu'on n'en prend pas 15 500. Alors, de plus en plus, la pression, on peut accueillir beaucoup de gens, là, mais la pression va être qu'est-ce que l'on peut faire au Sud pour que la situation sociale, politique, sécuritaire, économique devienne tellement meilleure qu'il n'y a pas cette pulsion pour aller vers le Nord. Et c'est là la demande numéro un des États-Unis au Canada, c'est pourriez-vous nous aider à essayer de stabiliser Haïti? Lourde tâche, dirait le général.
Très lourde tâche. On sait peut-être comment y rentrer, mais on ne saura jamais comment en sortir en ne laissant pas trop de plumes et ne perdant pas la vie de certains de l'armée canadienne si jamais celle-ci avait à intervenir à Haïti. Sinon, Joe Biden va bientôt faire un discours là, dans les prochaines minutes à la Chambre des communes. On surveille ça. Mais au-delà des rencontres avec Justin Trudeau, les présidents américains rencontrent aussi les chefs de l'opposition. Pourquoi?
Et ça, c'est intéressant. On voit pas ça, mais il va rencontrer M. Poilievre. Il va aussi rencontrer Mme May du Parti vert. Il va rencontrer M. Blanchet du Bloc québécois. Jagmeet Singh du NPD. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est manquer de respect envers le premier ministre du Canada? Non. La relation, c'est pas entre Joe Blow Biden et Justin Trudeau. La relation, c'est entre les États-Unis et le Canada. Et pour avoir une véritable relation institutionnelle, ben on s'adresse à tous les représentants de l'institution. Et puisqu'il va au Parlement, il est normal que dans un Parlement, les chefs de parti aient un statut particulier. Et on devrait être heureux de ça. Parce que si un changement de gouvernement mettait en péril nos relations bilatérales avec les États-Unis, ce serait très grave. Nous, on considère qu'il est normal de parler à Joe Biden puis de parler à des républicains au Congrès, évidemment. Puis en vieille pensée britannique, mais là, c'est pas une prédiction, là. L'opposition d'aujourd'hui, c'est le gouvernement de demain.
C'est le gouvernement en attente.
Soit c'est les États-Unis, ben, tu vas être sûr de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors, la relation est avec le Canada. En anglais, Yasmine, tu connais ça, il y a une magnifique expression qui s'appelle le gouvernement du jour. Ben, on traite avec le gouvernement du jour, et puis demain, ben, ça peut être un autre jour. Donc, on s'assure de pas personnaliser la relation avec une personne, ou pire encore, avec juste un parti. Donc, c'est une très bonne nouvelle, puis tant mieux pour ceux qui sont les chefs de parti, ils ont une rencontre intéressante.
La rencontre n'est pas encore terminée, qu'on dit déjà que ce voyage est un succès, tant pour Joe Biden, mais surtout pour Justin Trudeau, qui aura livré des dossiers assez chauds sur lesquels il était pas mal attendu. Guillaume Lavoie, on va probablement disséquer dans ses moindres détails ce voyage lundi. Alors, surveille ça pour nous et on se reparle lundi.
Au plaisir.
Au revoir.